Leïla Kadoboudali.
Bonjour à tous.
Guillermo Guise.
Absolument.
Daniel Mora.
Oui, bonjour.
Tom Villa.
Bonne année,
Mélanie Pastureau qui sera là tout à l'heure. Et notre invité est Mélanie Douteau.
Bonjour.
Tout va bien ?
Mais tout va très bien.
Ravi de vous accueillir, extrêmement bien. Ravi de vous accueillir. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, puisque à partir du 16 janvier, mardi prochain, démarre donc au Bouffe Parisien la pièce dont Michel Faux nous avait parlé lorsqu'il était venu d'ailleurs à ce micro, en nous disant qu'il avait envie de trouver une pièce pour vous, pour jouer avec vous. Et qu'il était ravi de vous retrouver sur scène. Et vous êtes même la seule femme dans ce casting, entourée de Michel Faux, donc de David Kamenos, Christophe Paou et Rémi L'Aquitant. Cette pièce de Jean Poiret, douce, amère, dont on peut dire que ça commence. On est dans un couple avec un couple malade. Je crois même l'expression est employée dans le texte.
Oui, c'est un couple malade. C'est un couple en fin de parcours. Ça va plus très bien, on peut dire même ça. C'est au bord de l'explosion et le personnage que joue Michel Faux, donc qui s'appelle Philippe, a la bonne idée de plus ou moins choisir celui qui va le succéder.
Il fait un casting, c'est ça.
Grosso merdo, ouais.
Il organise des dîners, des rencontres, et donne son opinion d'ailleurs, en disant, lui il est bien, lui...
Et il y en a un qui est pas mal, qui s'appelle donc Michel, qui est joué par Christophe Paou, et il est plutôt pas mal, c'est le genre idéal, donc il accepte, même il le pousse à y aller, quoi.
Beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie...
On retrouve l'écriture magnifique de Poiret... Avec ce cynisme, ces pensées tortueuses, cette analyse de la psychologie humaine incroyable, ce côté très incisif, et puis cet humour, il y a beaucoup d'humour.
Et très joueur, parce que j'ai pensé aussi que les gros salaires lèvent le doigt, où il faisait un jeu de chaises musicales autour de ceux qui allaient être virés ou pas de la société. Là, il y a presque un jeu de la vérité qui est organisé dans un repas aussi. Il aime jouer et que les personnages jouent avec les angoisses, les tensions les uns avec les autres.
Oui, je pense que Poiret était quelqu'un d'assez complexe. Enfin, on le voit dans son écriture, même quand on revoit Le Zèbre, c'est quand même une analyse de couple qui était super compliquée, quoi. Fallait tout le temps remettre en question le désir. Là, on remet en question beaucoup aussi qu'est-ce que c'est que l'amour, évidemment. Et puis, qu'est-ce que c'est que dominer? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un dominant dans un couple? Enfin, c'est des questions qui n'ont pas beaucoup vieilli, en fait.
Et le libre arbitre de la femme.
Oui. Qui n'a pas beaucoup vieilli, en fait.
Oui, c'est ça, c'est l'épreuve aussi de la femme et la solitude. C'est ça aussi qui est questionné dans la pièce.
Oui.
Est-ce que votre personnage, Elisabeth, est capable d'évoluer seule? Est-ce que ses amours diverses et variées sont le reflet d'un réel sentiment ou d'un fantasme? Est-ce qu'on construit ses relations à l'opposé de la première relation, celle de Philippe?
Ouais, dans un premier temps, elle est un peu le jouet, entre guillemets, de son futur ex. C'est lui qui lui dit même si on n'est plus ensemble, tu ne pourras plus jamais m'oublier, je serai toujours présent. Je ne serai plus dans le cœur, mais je serai dans la tête.
Oui, oui, et c'est vrai qu'on a du mal à se défaire d'une relation. C'est de s'épanouir totalement soi-même sans être emprunt et se détacher des marques et des traces que laisse son passé, c'est difficile. Je pense qu'il faut se détacher d'une lutte. Faut juste être en accord.
Non, mais il y a une scène.
On a atteint les sommets.
On peut s'arrêter là.
Merci.
Mais non, mais c'est pour dire que le personnage de Mélanie n'est pas si dupe que ça. Moi, je la sens pas. Enfin, je pense qu'il doit y avoir pas mal de lectures avec ce texte-là. Soit se dire qu'elle est le jouet au départ de Philippe, qui va aller jusqu'à même choisir.
C'est lui qui veut en faire un jouet. Hein. C'est pas.
Oui, et en même temps, je la sens complètement assez libre, en fait, de pas se laisser complètement manipuler.
Sans raconter la fin.
Mais ça reste un combat.
Même si la pièce a déjà été jouée, a toujours été un succès. Oui, ça reste un combat, c'est vrai.
Ça reste un combat pour elle. Donc à partir du moment où on est dans la dualité, on est dans la lutte, tout à fait. Est-ce qu'on est vraiment soi-même? Je ne sais pas.
Et c'est drôle, c'est poétique, c'est rythmé. Le casting est appétissant. On a hâte d'aller au Bouffe Parisien pour vous
applaudir. Et puis il y a Michel Faux qui, quand même, moi, c'était un rêve de bosser avec lui parce qu'il a cet univers.
Ah, vous aussi, parce que lui rêvait de vous. vous de lui.
Ouais,
c'est chaud,
on rêvait
hein.
de
ouais, vous rêvez beaucoup. Hein.
Et voilà, donc je suis très très fière et flattée et excitée.
Et sa mise en scène, alors parce qu'il y a son jeu, son talent d'acteur aussi, mais son talent aussi de metteur en scène. C'est lui qui a choisi la pièce et qui vous l'a proposé.
C'est lui qui a choisi la pièce aussi avec Hélène Médic qui m'en avait parlé en premier. Donc voilà, j'ai eu un coup de foudre pour cette pièce. Et donc on s'est rencontrés autour de ce texte-là, puis de l'écriture de Poiret. Et puis Michel a amené tout. Michel dit quelque chose de très juste par rapport au théâtre, c'est-à-dire qu'il veut aujourd'hui le théâtre c'est devenu quelque chose d'un peu plan-plan, un peu quotidien. Non, le théâtre ce n'est pas la vie, quoi. Il faut sortir de ce quotidien. C'est un petit peu tiède, donc il se permet même, ne serait-ce que dans l'esthétisme, ça pète, quoi. C'est et dans les sentiments, ça pète. Enfin, c'est un feu d'artifice, quoi. On ne joue pas une scène de passe-moi le sel. Enfin, rien n'est, pour l'instant, dans le travail, en tout cas, rien n'est plat, quoi.
Il a mis sa folie.
Il a mis sa folie, son tempérament et sa joie.
Et vous avez vu ces récentes mises en scène?
Ah bah Tartuffe, moi j'ai trouvé ça grandiose. Ouais.
Vous avez vu Cactus, Fleur de Cactus?
Non, j'avais pas vu, mais j'avais vu le Monterland, j'avais vu le Roussin, j'avais vu... Enfin, je suis une fidèle spectatrice de son travail. Et j'admire beaucoup.
Alors, je parlais de poésie et d'humour. Humour, il y a une scène, et je pense que beaucoup de personnes séparées ou qui ont des aventures assez brèves autour de cette table. Ça va, Guillermo?
Je sais pas demander salut.
Il a rien demandé.
Tu t'es affiché comme ça. Mais défends-toi, mon lapin.
Mais j'écoute cette personne qui me parle dans un langage curieux. Continuez, Nagui.
Cette scène où, au moment où on se sépare dans un couple, c'est vrai, ouais, totalement gratuit. C'est au moment où on se sépare, mais c'est l'intérêt de la vie, c'est qu'il y a des choses gratuites aussi. Et donc, au moment où on se sépare dans un couple, normalement, on se dit, bah, qui va avoir la garde des enfants, qui va avoir tel canapé, ou qui va garder l'appartement, j'en sais rien. Et puis, là, il y a dans la séparation, il y a qui va aller dans tel restaurant, qui va garder tel ami, va garder tel endroit ou tel banc public. Je trouve ça formidable parce que c'est vrai que c'est plus pareil.
Tragique même. Il le traite avec
dans un
beaucoup
endroit
d'humour.
Exactement. Ouais. C'est super drôle.
C'est la langue de poire, c'est-à-dire ok, bon bah alors on va séparer, donc on va qui garde Georges.
C'est ça.
Qui va garder petit café là. Donc c'est traité avec beaucoup d'humour et en même temps ça dit quelque chose de très juste. C'est vrai qu'une séparation, l'entourage se sent obligé de faire un choix. Donc là, le personnage de Philippe décide de faire ce choix avant que les autres le fassent.
C'est intelligent à la Jean Poiret, on a envie de dire. C'est fou à la Michel Faux.
C'est la première fois que le texte est rejoué depuis Jean Poiret.
Depuis sa création.
Depuis sa création.
Qui était dans les années 70.
Avec Nicole Courcel, c'est qu'elle dit. Ouais.
Et être la seule fille en scène.
Oh, ça va.
Vous gérez bien. C'est au Bouffe Parisien à partir de mardi prochain. Tom Villa, vous avez compris pourquoi on avait invité Mélanie Douté maintenant.
Ben oui, vous l'avez dit, c'est une pièce sur le couple et la séduction. 8 ans en couple et ça commence à battre de l'aile. 8 ans, c'est bien déjà. Enfin, d'ailleurs, c'est fou de dire aujourd'hui 8 ans, c'est bien. Non, mais c'est au Moyen-Âge, je suis mort à 28 ans, donc évidemment 8 ans, c'était bien. Mais mes grands-parents, ils sont restés 62 ans ensemble. Et encore, c'est parce que ma grand-mère est décédée. Sinon, ils auraient fait au moins 200 ans ensemble. Mais c'était une autre génération. Il y avait cette phrase, tu sais, je vous déclare mari et femme jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est fini. C'était pour une autre génération. Aujourd'hui, ça devrait être je vous déclare mari et femme jusqu'à ce que l'un de vous rencontre quelqu'un d'autre et que vous sépariez jusqu'au moment où l'autre regrettera et cherchera à revenir. Voilà. Mais c'est dur de tenir aujourd'hui. Moi, quand je suis en couple, on dirait un iPhone. Au début, ça marche hyper bien, c'est réactif, c'est plein de vie. Et puis, au bout d'un moment, je suis victime de l'obsolescence programmée. Il y a un nouveau qui sort, c'est un peu le même qu'avant, légèrement mieux. Et puis voilà, c'est fini. Ça marchait pas comme ça avant. Moi, mes parents, ils sont ensemble depuis 31 ans. Ils ont la même machine à laver depuis 15 ans. C'était différent. Aujourd'hui, c'est hyper dur de faire durer un couple. Une machine à laver aussi, d'ailleurs. Mon père, il a changé le tambour des deux. Mais vous savez ce qui a tout niqué, c'est Internet et les smartphones. Mon père, à mon âge, j'en parlais Tinder, Happn ou Adopt un mec, il n'avait pas ne serait-ce que Facebook, Instagram et Snapchat. La plus grande tentation qu'il pouvait avoir, c'était l'été sur la plage, tu vois, avec quelques mots d'allemand, tu vois, on le voit bien dans la pièce. Au bout de 8 ans, ça commence à se fissurer, il y a des prétendants qui commencent à se manifester. Un couple, c'est un peu comme une entreprise, en fait. Si tu n'innoves pas, et ben, au bout d'un moment, t'as la concurrence qui te dépasse. En même temps, les couples qui sont ensemble depuis longtemps, c'est normal que l'amour se modifie. Regarde, vous demandez à un jeune couple depuis combien de temps ils sont ensemble. Ils peuvent te sortir la date, l'heure, le lieu, la température et la pression atmosphérique qu'ils faisaient ce jour-là. Alors que quelques années après, c'est plus approximatif. C'était 2011 ou 2008, je sais plus. Je crois que c'était en France. Chérie, c'était l'année de la canicule ou de la Coupe du Monde? Voilà, hein. Oui, quand tu commences à te parler très loin dans un couple, c'est que ça pue du cul, hein. C'est vrai.
Encore?
Mais oui. Martine, tu l'as foutu où la télécommande? Hein? Non, mais moi, j'ai plutôt une bonne mémoire. Avec ma copine, on s'est rencontrés samedi dernier. Elle avait un pull gris, un pantalon noir et des bottes en cuir. Et je me souviens, elle m'a dit, c'est 50 euros. Et ça va, je déconne, son pull était bleu. Et après, non, il y a des dates marquantes. Moi, avec mon ex, ça avait démarré un 11 septembre. Et ça a fini comme un 11 septembre, d'ailleurs. Il y a des dates que tu n'oublies pas. Et puis, c'est pas évident de toujours faire vivre l'amour comme ça au premier jour. Personne n'est amoureux comme au premier jour, à part les gens qui ont Alzheimer. Moi, ma grand-mère, elle avait l'impression d'avoir rencontré mon grand-père le matin même. Elle était super heureuse, mon grand-père un peu moins, parce qu'en fait, ma grand-mère, elle voulait toujours commencer leur relation par une promenade avant d'aller plus loin. Et comme à la fin, elle avait plus qu'une demi-heure de mémoire, ils ont juste beaucoup marché. Alors, t'as pécho ? Non, mais j'ai fait un beau marathon. Mais peut-être que c'est ça l'amour, une longue promenade. Parfois, il y a des montées, il y a des descentes, des faux plats, des points de côté, des ampoules, des entorses, des claquages, des pauses, mais aussi des oiseaux et des biches. Mais une promenade, si tu la commences à deux, faut la finir à deux. Alors, coupons nos téléphones portables. Et je pense que dans le couple le plus dur, c'est les 50 premières années. La suite, c'est comme la dernière étape du Tour de France. Il peut plus t'arriver grand chose.
Bravo, Tommy. La bande originale, la
vie. Sur France Inter. Et oui, il y a des moments de poésie, et chez Tom Villa, et dans la pièce aussi signée Jean Poiré, des moments de poésie où notamment c'est, je crois que c'est Michel qui fait une sorte de monologue en disant qu'il veut éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui vous rende triste dans la vie, que ce soit les feuilles mortes. Il va secouer les arbres pour qu'il n'y ait plus de feuilles mortes, supprimer les musiques tristes, faire oublier les jours de pluie, et ainsi de suite. Il y a des vrais élans comme ça.
Ah oui, il y a des élans, des envolées lyriques. Ouais, mais.
Et extrêmement. Non, mais c'est beau, c'est émouvant, c'est pas ringard. Non, mais c'est ça qui est fort.
Ah non, c'est pas. Mais la poésie, c'est pas ringard.
Oui, non, mais on pourrait dire, c'est un peu gnangnan, quoi, dans un couple, qu'il y ait quelqu'un qui dit je secourrai les arbres pour que plus jamais aucune feuille morte vienne.
Vous seriez capable, Nagui.
De quoi? De secouer un arbre? Ah, d'être cucu, oui.
Je crois qu'en plus, on aime bien les filles, la poésie.
Les garçons aussi.
Et puis les garçons aussi.
Est-ce que dans le personnage, justement, que vous incarnez, vous avez retrouvé des enseignements autour du couple, justement, c'est-à-dire de cette fille-là, vous vous dites oui, elle a raison. Est-ce que vous l'observez? Est-ce qu'on observe un personnage de l'extérieur quand on est une comédienne?
Moi, j'adhère complètement à mon personnage, donc je la
vous
trouve.
Vous identifiez carrément.
C'est une étape de travail, oui. Pour l'instant, j'ai besoin de m'identifier. Je la défends, je la comprends et je réagirai pareil. En ce moment, je fais plus que tourner autour. J'ai l'impression d'être Elisabeth, donc je suis avec elle, quoi. Je l'adore. Je dis waouh, mais elle a tout compris.
c'est
ma meilleure copine en ce moment.
Ah, elle est forte.
Elle est forte, elle est courageuse et je l'admire beaucoup.
Cette pièce est à partir du 16. Là, pour l'instant, vous en êtes au stade de répétition dans le théâtre, dans le décor. On est à 4 jours. Hein.
On est dans les retouches des costumes, dans les premiers filages, dans les... Ah bah non, attends, c'est quoi le... Enfin là, ça va pas du tout. Là, c'est une catastrophe. Là, c'est le trek est en train de monter. Tout est en train de se mettre en place, mais je crois qu'on a envie du public déjà.
Et justement, au niveau des costumes, parce que finalement, c'est assez atemporel. C'est contemporain en termes de mise en scène et de
sur l'affiche, Michel Faux est nu sur la fiche, donc comme ça ils sont pas posés de problème de costume.
Ouais.
Et vous êtes un peu en smoking.
Oui, mais non, les costumes sont dingues. Et puis on a remis ça dans l'époque des années 70. D'accord. Donc il y a des costumes magnifiques et un décor dément.
C'est une période que Michel Faux aime bien dans ses mises en scène d'ailleurs, les années 70.
Mais qui n'aime pas les années 70?
Il les a en tout cas bien mis au goût du jour sur scène au théâtre.
Dans
Fleur de Cactus, c'était assez magique aussi dans les costumes, dans le cadre, c'était très très beau.
Douce amère de Jean Poiré, donc mise en scène par Michel Faux et portée entre autres par Mélanie Douté qui est notre invitée jusqu'à midi et demi. Et quand on vous a dit que Mélanie revenait dans l'émission,
oui,
vous auriez sifflé.
J'aimerais revenir avec vous, Mélanie, sur un événement important de votre carrière, parce que quand je pense à vous, j'entends un générique. Le générique de la série Clara Scheller, une des séries, la série ça vous va bien, je vous ai vu récemment dans Paris, etc.
Oh là 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 là.
De Zabou Bretman et
très fin.
Formidable.
Mais c'était non
mais incroyable Huppert, quoi.
Mais non, on est unanimement complètement convaincus par votre prestation dans Paris, etc. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, faut vous jeter sur cette série où vous incarnez une jeune femme différente par pas mal d'aspects. C'est réjouissant de vous voir dans des rôles comme ça, en tout cas de voir. Vraiment, ça fait vraiment. À la fois c'est très drôle et en même temps je me dis. On voit une très belle femme en vous et on se dit pas, on lui donne jamais cette possibilité au cinéma ou à la télé de vous voir dans un truc complètement fou et je suis sûre que cette folie vous l'avez assez naturellement en fait.
En tout cas, je me suis beaucoup amusée et puis je remercie Zabou parce que c'est vrai que c'est un vrai rôle de composition. Je pense pas être d'en arriver à ce point-là de d'hystérie parce qu'elle a un côté. Enfin, je faisais un personnage de télé-réalité un peu extrême, un peu caricatural, mais j'adore jouer avec la caricature. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on s'est si bien entendu avec Michel, c'est que on n'a pas peur et puis dans notre notre vie, on peut avoir des moments où on est hyper caricaturaux sans tomber dans l'hystérie, mais voilà, faut pas avoir peur, on des extrêmes. Et là, le personnage que m'offrait Zabou, c'était vraiment un personnage extrême, je me suis éclatée. Et puis avec Nora, ma partenaire, c'était, enfin, j'ai adoré faire ça. Ouais, mais c'est vrai qu'on a peu l'occasion de le faire.
On vous découvre comme ça, tout d'un coup. Dans cette série, moi, je découvre un aspect de vous. Jeu, en tout cas.
Merci.
Et pour revenir à Clara Scheller, c'est en effet cette série qui vous a fait connaître du grand public. C'était un carton insensé. Ça passait à la télévision. C'était un rendez-vous que personne ne loupait. L'histoire était simple. Vous incarniez cette héroïne à la recherche d'une trentenaire, à la recherche de l'homme idéal, du prince charmant d'une certaine façon, en coloc avec son meilleur copain homo, et il s'avère que vous allez finalement jeter votre dévolu sur le même homme, en gros, et ça a été un truc de génération où la télé montrait aussi une jeunesse différente avec ses préoccupations bien à elle, et je crois
qui assumait de parler d'homosexualité ou même d'amour à 3.
D'amour à 3,
ouais, c'est ça, ouais, ça allait loin.
Plus de 6,5 millions de téléspectateurs en moyenne, ça donne
Non, mais il y a 10 ans.
Mais c'était il y a 10 ans, ouais. mais c'était fou. Moi, je me souviens de regarder, de ne pas
louper. Il y avait
3 chaînes
à l'époque.
Hein. En noir et blanc.
Ah ouais. Et Nagui était sur la 5.
Et les caramels, ça coûtait 10 centimes à la boulangerie.
Il n'y avait pas d'iPhone.
Il n'y avait pas. Il n'y avait pas encore Tinder, tout ça. En tout cas, c'est un carton. Et je crois que pendant la diffusion de la série, vous n'étiez même pas sur le territoire. Vous n'étiez pas en France.
Je sais plus du tout. Mais peut-être.
Vous étiez en tournage à Prague ou quelque chose comme ça et que vous n'avez pas vécu
le succès, tu veux dire.
Ouais, parce que je me dis, qu'est-ce que ça fait de sortir dans la rue au lendemain de la diffusion de Clara Scheller, 6,5 millions de téléspectateurs. Ça doit être, pour vous, c'était une exposition
Prague,
de dingue.
Ouais, je suis partie loin de tout ça. J'avais besoin de me retrouver, j'avais peur. Non, j'ai pas le souvenir de pas être là ou d'être là, mais j'ai le souvenir de la fierté, quoi, d'avoir fait ce personnage. Je me suis vraiment amusée à faire ça, et puis parce que il y avait de l'humour dans l'écriture, c'était très très moderne, tous mes partenaires étaient top, je me suis éclatée. J'ai le souvenir surtout de pas être là pour la deuxième. J'ai pas vu la deuxième série, non pas par snobisme ou par jalousie saison, ou quoi que ce soit, mais j'étais pas là. Et puis après, c'est vrai que j'ai pas cherché à le voir, parce que j'ai fait le deuil de ce personnage après.
Et en tout cas, c'est un personnage, j'imagine, qui vous vaut toujours autant d'interpellations dans la rue, de messages, je sais pas, on voit encore en vous Clara Scheller ou pas?
Oh, elle a pris un petit coup quand même, Clara Scheller, là, avec moi, mais.
Non,
ça va pas.
Mais j'aime bien le temps qui passe, c'est pas du tout.
Vous êtes belle comme tout.
Non, mais c'était pas une.
Bah si.
Mais
on vous en parle peut-être un peu moins, c'est ça?
Oui, mais c'est pas, c'est bien aussi. Mais en tout cas, j'ai adoré ce personnage.
Vous avez des doutes sur votre charme, votre
pouvoir? Ah non, je ne cherchais pas du tout à dire ça. Je trouve ça super, le temps. Moi, j'adore les cheveux blancs. Je suis non, mais j'adore le temps. Et on apprend tous les jours, donc j'aime bien. J'ai l'impression de devenir une grosse bibliothèque.
Grosse encyclopédie.
Un bibliobus.
Parce que lorsque Michel Faux, je ne sais pas si vous avez le sentiment de qu'il soit troublé par votre charme ou votre puissance de séduction, mais lorsque Michel était venu à ce micro, il était troublé, clairement.
Ah oui ?
Vous savez pas ?
Non, mais...
Écoutez,
bien. Qui est très très charmante. Hein.
Dites donc.
Ça n'y a pas un
moment. Calmez-vous.
Vrai.
Ah oui,
mais
oui,
calmez-vous.
J'ai dîné avec elle, j'étais un petit peu gêné. C'est vrai,
Michel, hein. Mais que vous arrivez-t-il ?
Elle est vraiment magnifique.
Il était troublé. Voilà.
Bah, ça me fait très plaisir.
Vous avez vu comme il parle, vous allez pouvoir le vanner avec ça. On retourne dîner, Michel. Vous pouvez le faire.
J'étais très troublée aussi.
Ok.
Voilà, il se passe des trucs.
Oui. Est-ce que c'est délicat d'être sur scène avec le comédien qui est également le metteur en scène?
Non, j'ai pas. Ça dépend des moments. Non, mais parce que ça dépend. Il y a des moments où, au contraire, c'est très agréable parce que c'est lui qui tient le rythme, qui impose des choses. Et puis comme il a le personnage un peu du grand Manitou, enfin le personnage de Michel est Manitou, ça se dit.
Oui.
Et du coup, comme il gère un petit peu tout, ça correspond bien au metteur en scène aussi. Donc ce rôle peut le permettre. Et c'est plutôt bien d'avoir le metteur en scène. Mais je pense qu'on va avoir des notes régulièrement, mais tant mieux. Comme ça, on lâche. lâchera rien.
On va avoir quoi, des ?
Des notes. Après la présentation, on va avoir des petites...
C'est-à-dire quoi, il note sur des papiers, il vous met
des notes. Non, il est...
Ah, d'accord.
Lui aussi, c'est une bibliothèque, hein, c'est fou.
Au bout pharisien, à partir de mardi prochain. Et tout de suite sur Inter, c'est Guillermo Guiz. Ah oui, déjà.
Bonjour, bonjour les amis.
Salut. Salut.
Alors,
bonjour.
Je sais à quel point ça vous fait mal d'avoir un collègue instruit. Mais parfois le matin, je lis les pages scientifiques du Monde en écoutant de la musique de type reggaeton devant une tartine de pain frais sur laquelle j'ai posé de la confiture de nèfle. Putain, j'aime la vie, c'est comme ça, j'aime la vie, je vais pas m'excuser, j'aime la vie. Toujours est-il qu'en lisant hier un article sur l'hypothalamus des souris dans le monde d'hier, je me disais, c'est fou que les progrès de la médecine, en fait, c'est toujours les souris qui en profitent en premier. Je trouve ça juste. C'est vrai, chez les souris, ça fait 10 piges qu'il n'y a plus de cancer et tout, ça fume clope sur clope, ça isole sa cage à l'amiante, c'est glyphosate matin, midi, soir dans les bégonias. C'est vrai, la science sauve des tas de souris, alors qu'on ne sait pas du tout si c'est des gens bien en tant que souris. Peut-être dans le tas, il y a des gens qui disent ils croivent, etc. Alors, c'est vraiment. Alors, mais pourquoi je vous parle de cette injustice entre mammifères à organes durs et à poils mous ? Eh bien, parce que dans le monde d'hier, des chercheurs affirmaient que chez la souris mâle, séduction et agression étaient activées dans la même zone de l'hypothalamus, avec cette question en filigrane, quel avenir pour Catherine Deneuve dans le cinéma français ? Alors là, il y a Nagui, non, pas la tribune des sans fin, mais s'il te plaît, c'est touchy comme sujet, je suis Nagui, je suis pas Michel Pollack et tout, faut du fun, faut du léger, tu veux pas refaire des blagues sur le cancer, n'importe quoi, la mort de Coluche, Barça PSG, Désirless, ce que tu veux, mais pas ça. Alors je sais que le sujet est explosif, Nagui. Et croyez bien que je pensais rester à l'écart du débat vu mon profil. Homme, blanc, hétérosexuel, la soixantaine, les cheveux souples, une peau douce, bien qu'imparfaite, et une hostilité notoire envers les souris. Mais, comme le disait très justement Simone de Beauvoir avant-hier dans son statut Facebook, ce qui manque au féminisme moderne, c'est vraiment l'avis de Guillermo Guiz, quoi, évidemment. Gros buzz, 62 likes, 13 j'adore, 5 émoticônes mou dubitatif, ça a été vraiment un gros succès. Du coup, je le sais, je suis le grand absent des débats, hein. J'ai refusé de répondre à tous les grands médias français qui me harcèlent, le journal du motard, Gulli News, hier encore le blog de Noël Mamère, c'est ce que Noël, ma mère me disait. Il me disait, Ernesto, la France a besoin d'une boussole morale. Et je lui disais, mais pourquoi vous demandez pas à Daniel Morin ? Il m'a fait, parce que la boussole de Morin indique toujours la même direction, le sud de Fleury-Mérogis. Donc voilà, je sors enfin du bois. Par contre, je vais essayer d'être le plus nuancé possible dans mes positions.
S'il te plaît.
Du coup, cette chronique va durer 55 minutes. Elle sera suivie d'un débat co-animé par Lélie Kadour-Baudali et Elisabeth Lévy, puis d'une séance d'insultes-réponses sur Twitter, où chaque internaute pourra spéculer sur la profession de ma maman en 285. Alors, désolé pour Mélanie Douté, donc, qui va devoir assurer sa promo dans l'émission suivante, malheureusement, carnet de campagne. Voilà. Ceci dit, si vous avez des dates de tournée dans l'Essonne, il y a un coup à jouer, vraiment. Et justement, avant de commencer cette chronique, et de livrer mon opinion, je vite une incise pour rappeler à Mélanie qu'on s'est rencontrés il y a 4 ans. À la radio belge.
C'était toi ?
Et elle allait se faire, putain, mais ouais, c'est le relou de Bruxelles, il y a une sortie de secours. Call 911. À l'époque, en effet, j'avais fait une chronique qui disait, en gros, oser sortir avec un Bruxellois. Et ça avait été un très très gros impact sur vous, la preuve, pas de nouvelles depuis 4 ans. 4 ans à mûrir votre décision, à peser le pour, le contre, est-ce que j'y vais pas, il est belge, tout le monde va se moquer, etc. C'est tout à votre honneur, vous prenez pas notre histoire à la légère, Mélanie. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait, ça et la fois où quelqu'un m'avait dit que je ressemblais à la doublure lumière d'Ashton Kutcher. Donc vraiment, inoubliable, Mélanie, et merci pour tout, mais vraiment, pour revenir à l'hypothalamus des souris et commencer cette chronique, agression, séduction, je vous conseille vraiment de lire Le Monde d'hier, puis d'enchaîner avec les deux pages sur l'expression du désir et l'opposition nature-culture dans l'intériorisation des normes sexuelles. Putain, c'était vraiment captivant. Si j'avais 5 minutes, je vous en ferai une chronique. Allez, bonne émission.
Merci, Guillaume.
France Inter, Nagui, la bande originale.
C'est amusant parce que la vanne de Guillermo à votre sujet en disant « Mais je comprends, vous réfléchissez encore à notre relation depuis 4 ans et vous ne vous approchez pas ce que tu viens de faire. » On retrouve un peu aussi ça l'esprit de la pièce, c'est-à-dire se rapprocher sans jamais se toucher, se jouer au jeu de la séduction et de ne pas savoir finalement que de ne pas passer à l'acte, de ne pas s'embrasser. Est-ce que c'est encore plus excitant que de finalement craquer.
En fait, elle va essayer un petit peu tout avec les 4 hommes qui l'entourent. Donc avec un des personnages, oui, le jeu de la séduction est plus fort que de passer à l'acte. Quoi.
C'est ça,
elle
peut faire traîner quelqu'un pendant des mois ou des années, comme se jeter sur un en un coup de téléphone en disant c'est maintenant et c'est tout de suite.
Oui, il y en a un où la consommation est assez immédiate, et l'autre où le fantasme en fait va faire durer leur relation plus longtemps, va faire durer, oui, leur rapport plus longtemps
qu'un acte.
Voilà.
Un simple acte.
C'est un laboratoire, sorte de laboratoire où les hommes sont des souris. Voilà.
Oui, voilà, ouais. C'est juste.
Et il y en a un
une belle blouse.
Il y en a un qui reçoit bien. Je crois que c'est le personnage joué par David Kamenos, Stéphane.
Oui, mais lui, il est très romantique. Ouais. Il veut tout au-dessus, de coups. Il est mignon, mais enfin, quand même. Il est là, j'ai mon âge. Voilà, on va pas tout recommencer tout de suite. Laisse un peu de temps, doudou.
Et puis, la question, tout ça, il y a quand même aussi un suspense de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer au final? On va bien évidemment se garder de vous le dire.
Ah oui.
Mais c'est vrai qu'il y a cette tension de savoir, est-ce qu'elle va trouver son bonheur, trouver cet amour, et si oui, est-ce qu'on le connaît? Et on joue un peu au jeu, enfin je sais pas,
détective, en
le lisant, ouais. En se disant, ouais, moi je pense qu'elle va faire ça, elle va revenir, non elle va craquer, non elle va rester, non,
mais je pense que tous les couples qui vont venir voir la pièce, nombreux vont-ils être,
vont se précipiter
vers la pièce d'ailleurs, oui, ils vont se projeter. Je pense que c'est vraiment une pièce, on peut pas rester insensible. Je pense que ça va nous enfin moi ça me fait poser beaucoup de questions sur la vie, sur le couple, sur l'amour, sur le désir, sur le, enfin tout. Et je pense qu'on est obligé de se projeter, de se poser des questions. Et je vais finir cette phrase par avec me répéter encore. Une projection.
Je vais la finir pour vous. Nous allons maintenant, avant de reparler du couple, de l'amour, dans quelques instants, avec une psychiatre et sexologue. Ça, vous aurez encore des questions à lui poser, j'imagine. Anne-Marie Lazartigue, qui sera. Pour la psychiatrie.
Votre personnage, voilà. Évidemment. Le personnage d'Elisabeth, pas mal de questions.
Je me serais jamais permis, notamment sur la séduction. Est-ce que c'est une maladie ou pas de chercher à séduire, de plaire en permanence? Question que l'on peut se poser, pardon, quand on est aussi actrice et que l'on sait qu'il faut être désiré par des réalisateurs, des metteurs en scène, plaire au public. C'est aussi un jeu de séduction auquel on se prête.
Ce sont des questions qu'on se pose, bien sûr. Comme le personnage d'Elisabeth.
Mmh. Exactement. Mmh. Ça sera dans quelques minutes, mais d'abord la bande originale de La Vie de Mélanie Douté en musique. Ce que vous écoutiez, par exemple, lorsqu'en 1999, vous allez au conservatoire.
Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets. Tous ces mots que tu ne dis jamais.
Yves Simon et Diabolomante, qui est d'ailleurs aussi la BO du film.
Ouais. Et ouais, justement, pour faire un parallèle Diabolomante, il y a aussi La Boum. Et en 99, vous, Mélanie Douté, vous vous inscrivez à la Sorbonne. Et vous imaginez que vous allez vivre à la façon de Sophie Marceau, l'étudiante, ou La Boum, mais c'est pas vraiment ça.
Non, c'est pas vraiment ça. Enfin, c'était pour la fac d'anglais. J'ai fait un petit début de cursus de fac d'anglais, mais c'était une bonne couverture sociale en fait, juste pour la Sécu. je commençais à prendre des cours privés au théâtre au cours Périmonie, qui me préparerait plus tard au conservatoire. Mais l'anglais n'a pas été une passion dans ma vie. Hein.
Ouais. Non. Vous êtes à un moment juste autorisée à vous dire je vais devenir comédienne. Mes parents sont comédiens, alors j'imagine que c'est plus difficile de se dire « Allez, je le fais aussi ».
Oui, je crois que j'ai repoussé le moment où je me le suis, de me l'avouer, mais après, quand j'y suis allée, je m'y suis jetée, et puis à corps perdu, et puis mes parents m'ont dit « Écoute, si t'as pas un nom, par contre, avant 25 ans, tu t'arrêteras ».
Ouais, ok.
Pas peur. Je pense qu'ils aient raison, parce que c'est très dur d'avoir des. Quand on voit
des. Il y a pourtant des carrières qui se sont déclenchées plus tard.
Bien sûr, mais c'est vrai que c'est un métier qui peut rendre tellement malheureux. Que autant
parce qu'on attend beaucoup.
Écourter. Ouais, parce qu'on attend, et puis parce que même si ça peut être là, ça peut disparaître tout aussi vite. C'est un métier dur. Mais c'est un métier de passion, donc c'est ce qui impose la passion.
Leïla nous parle de Sophie Marceau. Vous êtes identifiée à Sophie Marceau en la voyant au cinéma ou,
oh non, jamais. Jamais identifiée, mais je l'admire.
Vous pourriez être la petite sœur de Sophie Marceau.
Merci, c'est gentil. Mais j'admire beaucoup, mais je ne me suis pas identifiée.
Et 25 ans, c'est-à-dire pour réussir, enfin, c'est super court. Je me rends pas compte. Vous commencez quoi? Vous avez une vingtaine d'années? Vous avez quoi, 5 ans pour percer?
Ou commencer à gagner ma vie?
Ouais, d'accord.
Ouais, enfin, un nom, je pense que c'était plus dans commencer à gagner
ta vie. Être autonome et s'en sortir toute seule.
Ouais.
Ouais, d'accord.
En 2003...
On ne taxe plus, quoi.
Ouais. On ne taxe plus tous les mois.
En 2003, vous écoutiez...
Express yourself. Express yourself.
Simplement pour revenir sur Yves Simon et Diabolomante, c'était pour le film que vous avez choisi la musique?
Oui, parce que c'était Chabrol, parce que tout d'un coup face à lui, j'avais aussi un côté. Enfin, c'était un maître, quoi, Chabrol. Donc, je gardais cet œil extrêmement admiratif, comme peut avoir une étudiante face à son professeur. Enfin, voilà, j'ai vraiment une chance folle de tourner avec lui. Il y avait aussi Suzanne Flon, Magimel, Suzanne qui était une actrice extraordinaire. qu'elle crée quand même Anouilh. Enfin, je sais pas, ça force le respect.
Ouais, c'est un César pour du meilleur jeune espoir féminin.
Nomination, pardon.
Vous êtes nommé.
Il serait là avec moi à table.
Je sais pas, je vous le donnais, moi, en fait, je vous le donnais, Mélanie, comme ça.
C'est gentil.
Voilà, le frère du guerrier. Il vous a demandé, Chabrol, pour ce rôle, de faire quelques petites modifications physiques, je crois.
Oui, de me couper les cheveux.
Ouais.
Ça a été hyper dur.
Non, ça peut être vécu comme un drame. Juste ce côté, à un moment, voilà, vous êtes une jeune femme, on enlève une sorte d'apparat, un peu de féminité, pour rentrer dans le rôle de la bourgeoise.
Oui, non, j'étais. Il m'aurait demandé de
n'importe
me raser
quoi.
La tête.
Ah ouais, c'est vrai.
Fait, bien sûr. Ouais, ouais.
Et cette même année, il y a quand même un film assez étonnant. C'est Leïla de Gabriel Axel.
Alors en fait, ça c'est le premier que j'ai fait.
Ouais.
J'ai eu la chance aussi de bosser mon premier film. Donc c'était un film un peu particulier. Ouais, un film danois, muet.
Pas de dialogue
avec Michel Bouquet qui lit un poème pendant tout le film de Carole Blixen. C'est un film un peu.
Ouais, c'est assez spécial.
Très France Inter.
Mais c'est Gabriel Axel qui réalise. Ça.
Mais Gabriel Axel, c'est quand même le monsieur qui a fait le festin de Babette.
Ben ouais, que vous connaissez depuis très longtemps, en fait.
Oui, que je connaissais, il est décédé, le pauvre, depuis, mais... Enfin, pas juste après.
Il vous a connu enfant, il vous a connu petite.
Oui, il m'a connu petite. En fait, voilà, mes parents étaient comédiens, donc j'ai rencontré pas mal de monde quand j'étais petite, ouais.
Et ça fait un point commun. Michel Bouquet est un trait d'union avec Michel Faux.
Oui, exactement, avec qui vient de finir le Tartuffe, où il était grandiose.
Exactement.
Hein. Et vous l'avez vu, le film, il n'est pas sorti en France?
Il est sorti dans une salle. Non, mais c'est vraiment un film pour un...
Concept.
Concept.
En 2010, vous êtes au théâtre et vous écoutiez Nina Simone. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. J'adore cette version.
Ouais. It's
alright. Pourquoi cette musique?
Je crois que c'est l'année où naissait ma fille, donc mon petit soleil, hein, évidemment. Et puis parce que Nina Simone est dans le spectacle aussi, et voilà. Depuis, je trouve qu'elle a, à part la voix, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Non, je trouve qu'elle voix ne se lasse pas, quoi. Je trouve qu'elle a quelque chose d'incroyable dans la voix.
Elle donne la chair de poule, surtout.
Ouais, ouais,
et puis on a l'impression qu'il y a une espèce de souffrance, ou en tout cas de poids. C'est pas de la chanson, c'est de l'interprétation, quoi.
Elle a une souffrance lumineuse. Elle a un paradoxe dans sa voix qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle porte dans sa voix toute sa tragédie et en même temps, elle veut tellement communiquer au public. Mmh. Elle a quelque chose de solaire. Je trouve cette voix bouleversante.
Et on vous retrouve en 2010 aux côtés de Jacques Weber sur scène dans une pièce peu connue d'Ibsen, Solness le constructeur. Et vous n'êtes pas, il n'y a pas que Jacques Weber, il y a aussi Edith Skob.
Oui, ouais, j'ai de la chance aussi.
Ça, c'est la classe aussi.
Edith Skob, ouais.
De se retrouver sur un tel projet, entouré par ces deux comédiens qui sont, dans l'histoire du théâtre, c'est pas n'importe qui.
Oui, j'ai de la chance. Et avec le texte d'Ibsen, quand même, qui est une pièce incroyable, Solness le constructeur, qui est une très belle pièce. C'était une très très belle aventure, j'ai un beau souvenir.
Et ça, c'est la carrière au théâtre, on vous connaît bien au cinéma. Est-ce que. L'idée, c'est aussi de, à partir de ce moment-là, de vous dire, voilà, vous avez déjà fait pas mal de théâtre avant, mais de façon peut-être un peu moins exposée. C'était aussi une ambition de creuser davantage ce sillon-là.
J'ai pas de plan de carrière. Là, c'est vraiment la rencontre avec Michel, avec cette pièce de Douce sa mère de Poiret. Mais la scène, c'est vraiment un repère pour moi. Je trouve ce rapport concret au texte, à la salle, au public, aux mots.
Il y a l'odeur aussi d'un théâtre.
La planche, quoi, la rampe. Je sais pas. C'est un rapport vital. Quoi.
Ça veut dire que s'il fallait arbitrer là aujourd'hui entre une proposition cinéma et une proposition théâtre, rien n'est aussi évident en fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément le cinéma qui gagnerait
non,
à
non,
l'issue.
Non, exactement. Ouais. Non, c'est. Je marche encore, je me permets ce luxe-là de marcher à l'instinct et à ce qui va me plaire, un personnage qui va faire écho en moi ou pas. Et là, sans aucune interrogation, c'est. c'est Elisabeth dans Douce sa mère.
Et entre un humoriste belge et un humoriste à chemise à carreaux, si vous aviez choisi. Non, ok, bref. On va en revenir à, justement.
À la nationalité, ma chemise, ok.
À la séductrice que vous incarnez dans Douce sa mère, la pièce de Jean Poiret, à partir du 16 janvier. D'abord, est-ce qu'on peut la définir comme étant une séductrice qui ne vit que de drague et de
oh
surprise?
Non. Oh, ce serait la réduire, non, mon Dieu. C'est une femme.
Ok. Ok. Bon, on va en parler avec Anne-Marie Lazartigue. Merci d'être à notre micro, Anne-Marie.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes psychiatre et sexologue. Pour en revenir à la séduction, est-ce que d'abord la séduction est quelque chose de vital dans un couple? Je me rappelle plus la phrase exacte dite par Tom sur Tom Villa tout à l'heure sur comment faire durer un couple. Il faut faire une mise à jour régulière renouveler sur
parents. Il le pensait pas.
La séduction est quelque chose de vital, effectivement. Dans un couple, et que ça a tendance à. C'est quelque chose qui a tendance à diminuer au fil du temps, et puis c'est vrai. Si on est assez créatif pour la renouveler sans cesse. Mmh. Parce que finalement, on se trimballe toujours vers ceux qu'on va rencontrer, d'autres personnes. C'est toujours nous.
Tu disais quoi tout à l'heure, Tom?
C'était un couple, c'est comme une entreprise. Si tu n'innoves pas, au bout d'un moment, tu as la concurrence qui te dépasse.
Voilà, exactement. C'est ça. C'est l'innovation, la surprise, ne pas tomber dans le train-train, dans la routine. Et donc,
ça, je l'ai chouré sur Wikipédia.
Très bien. Mais c'est surtout que la séduction, quand Mélanie dit, mais non, c'est pas une séductrice, c'est tout simplement une femme.
Je suis d'accord avec Mélanie. Je suis tout à fait d'accord avec Mélanie. Et j'ai eu très, très envie d'aller voir.
Il y a un truc très mignon que je voudrais vous dire. Non, c'est que si vous vous rapprochez du micro quand vous ne parlez pas, au moment où vous parlez, vous écartez du micro, on va avoir du mal à faire de la radio.
C'est psychanalytique, ça, il y a un truc à faire.
C'est simplement, imaginez que c'est un téléphone. D'accord. Et qu'on a besoin que vous soyez le plus proche possible de cette machine-là qui vous veut que du bien.
J'ai beaucoup aimé cette pièce et tout ce qu'a dit Mélanie, il doutait depuis le début, m'a encore encouragée à aller la voir et m'a rendue encore plus impatiente d'aller la voir. Et je partage tout à fait votre avis sur le fait que cette femme n'est pas une séductrice. Je ne crois pas qu'elle soit une séductrice compulsive. Son but n'est pas de séduire pour séduire. Son but, c'est qu'elle cherche quelque chose. Et à un moment, je crois que je ne sais plus qui lui dit tu compliques les choses, tu compliques toujours les choses. Un des hommes qu'elle rencontre, là, lui dit ça. Et elle dit, non, c'est pas vrai, ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce que disent les hommes quand ils comprennent pas ce qui se passe. Et effectivement, je ne crois pas qu'elle complique les choses. Je crois qu'elle ne trouve pas ce qu'elle cherche. Et qu'elle est toujours découragée. Elle finit par être découragée.
Est-ce qu'elle sait ce qu'elle cherche? Ou est-ce que simplement ce qui lui plaît, c'est de chercher?
Justement, c'est pas ça. Elle cherche parce qu'elle a besoin de trouver une façon de vivre sa féminité, de vivre une relation amoureuse. Elle a besoin de tout ça, elle a besoin de sortir des rapports de force qu'elle ne fait que connaître. Elle a besoin de ça.
La pièce ouvre sur Michel Faux et Mélanie Douté ensemble, qui on sent que donc le couple est malade et le mari dit tu as besoin d'aller voir ailleurs, donc je t'ai choisi cet amant où il sera très très bien pour toi, mais il accepte d'être le mari trompé comme si c'était qu'une simple bouffée d'air frais dont elle aurait besoin pour que le couple tienne. Non mais certains, il y a eu des années comme ça où c'était à la mode entre guillemets de dire voilà, pour rester longtemps ensemble, chacun vit sa vie comme il le veut dans son coin. Et...
C'est à la mode actuellement, c'est un couple libre. Oui.
Ah bon.
Enfin, je te rappelle de couple aussi.
Faut qu'elle regarde.
Je vous donne le numéro de ma femme.
c'est ce qu'on appelle les couples libres. C'est à la mode.
Vous y croyez
je
pas?
Je pense. Non, c'est pas ça.
Ah bon,
je pense simplement. non plus. Non plus, je serais moins blanc ou noir. Non. Je pense simplement qu'il sait que c'est pas seulement une étape. Enfin, c'est pas une étape. Il sait qu'il faut qu'elle ait autre chose et il préfère choisir lui-même parce qu'il reste là, comme ça. Je crois que c'est ça, son truc. Et il choisit quelqu'un qui lui ressemble, qui va être assez ambigu et qui va lui ressembler.
Et sur la séduction, sur le désir de plaire que l'on a tous, quelque part naturellement, c'est la vie en société aussi, c'est se plaire à soi-même d'abord et après attirer ou chercher le regard des autres. Ça, dans un couple, c'est quelque chose qui est une qualité ou qui est un danger?
Et justement, ça m'intéresse quand vous dites se plaire à soi-même d'abord. Je crois que Elisabeth manque dramatiquement de confiance en elle.
D'estime en fait, d'elle-même.
D'estime ouais. d'elle-même. Elle demande aux autres, elle cherche chez l'autre qui lui apporte une estime d'elle-même de base qu'elle n'a pas. Mais seulement, comme elle n'a pas cette estime-là, l'autre peut lui apporter tout ce qu'il veut, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible.
Et est-ce que je peux vous poser une petite question indiscrète? Est-ce que vous avez quelqu'un? Parce que quand.
Non, mais. Voiture poseur.
Est-ce que vous avez quelqu'un et est-ce que vous avez arrivé à appliquer à.
Est-ce qu'elle est en couple, tu veux dire?
Oui.
Ah, d'accord.
Non, mais est-ce que vous arrivez à appliquer à vous-même ce que.
Les conseils qu'elle donne aux
autres. Exactement.
Ben, comme tout le monde, hein.
Ça veut dire.
À votre avis.
Comme tous les cordonniers. Ah, ce sont les plus mal chaussés.
C'est
pas ce que vous vouliez dire non plus. Non, je sais pas. Vous avez dit comme tout le monde.
Ah oui, ça veut dire que c'est pas plus simple pour vous que pour quelqu'un d'autre.
Parce que Tom est célibataire depuis longtemps, c'est pour ça qu'il demande ça.
Dès l'instant qu'on est impliqué affectivement, je crois que c'est toujours plus compliqué que quand on est quand on a un peu de distance, qu'on est un petit peu en dehors. Mais je voudrais
quand on est un dragueur comme Tom Villa, est-ce que donc vous dites c'est un signe de manque d'assurance que d'aller chercher dans le regard de l'autre une forme d'admiration, voire d'amour?
Je pense que ça dépend si on est un homme ou une femme.
Ah ben ça, je sais pas.
Je pense que
ça dépend des jours.
C'est une femme
d'escargot.
Je pense que c'est pas tout à fait pareil. Je pense que pour l'homme, séduire, c'est arriver à un aboutissement qui va être le rapport sexuel. C'est quand même
c'est,
ça.
C'est le conquérant, quoi, c'est ça?
C'est le conquérant.
D'accord. Et pour une femme?
Pour la femme, c'est le chemin qui est important, plus que l'aboutissement, souvent. Parmi les couples que je vois.
Vous êtes d'accord, mademoiselle?
Bah, bien sûr.
Absolument. Non, parmi les couples que je vois. Je suis désolée de dire que...
Enfin, je pense que certaines femmes se virilisent aussi.
Ouais, je crois aussi. C'est pas si genré que ça.
Je ne dis pas qu'elles ne couchent pas. Mais c'est le chemin de la séduction qui me paraît le plus important pour la femme.
Ouais. Elle cherche à scorer Elle cherche à scorer parfois aussi.
Faire des scores.
Faire des scores. Oui. Elle est jeune, elle parle jeune.
Oui.
Dès l'instant
jeune.
Où, pardon, mais comme vous êtes psychiatre et sexologue, évidemment, vous n'allez pas.
Et qu'on a des gros problèmes autour de la table, on va en profiter.
Vous n'allez pas révéler.
Tant que c'est gratuit.
Révéler ce qui se passe dans votre cabinet. Mais est-ce que des personnes viennent vous voir parce qu'ils ont à soigner entre guillemets ce besoin de séduire, ce besoin de plaire?
Oui,
et ça se soigne le besoin de plaire?
Oui, ça se soigne.
Comment?
Oui. Alors, ça dépend des personnes, ça dépend des causes de ce besoin de plaire. Je crois qu'en général, c'est déjà ne pas faire ce que fait Elisabeth dans la pièce. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle pense que la solution va venir de l'extérieur. En fait, elle ne, c'est ce que vous disiez, je crois.
Oui, tout à fait.
Et le problème, c'est que c'est elle qui doit changer, déjà. C'est elle qui doit réfléchir, qui doit prendre une indépendance, déjà. Et non pas demander à l'autre qu'il la lui donne.
Autrement dit, quand des hommes ou femmes, d'ailleurs, quand des personnes ont plusieurs aventures, c'est qu'ils cherchent l'histoire d'amour parfaite ou qu'ils cherchent à faire un score impressionnant, justement, en disant « je suis un Don Juan ». Je ne sais pas s'il y a l'équivalent féminin de...
Bah, Don Juan avec des seins, quoi.
Don Juan.
Zaya.
Mais est-ce que la quantité, finalement, n'est qu'une frustration de ne pas trouver la qualité?
Je pense que c'est une façon de chercher ailleurs qu'en soi ce qu'on devrait essayer de trouver en soi. Mmh. Cette assurance de base qui permettrait qu'ensuite l'autre soit capable de vous apporter quelque chose. C'est aussi... sortir du... Ce qu'elle n'arrive pas à faire, à un moment, elle dit... j'ai noté quelque chose qui m'avait intéressé beaucoup. Gilles lui dit qu'elle aime dominer. Et elle répond « Non, je n'aime pas. Mais si je domine, c'est qu'on ne sait pas me dominer. » Et elle ajoute « C'est peut-être ça le bonheur. » Et là, elle s'approche pour moi d'une autre perspective. Une domination qu'on ne peut qu'accepter. Et il me semble que là, elle sortirait du rapport de force. Si elle acceptait, si elle pouvait aller vers une domination... qui lui apporte quelque chose, c'est-à-dire reconnaître à l'autre quelque chose qu'elle n'a pas, mais dont elle va profiter, vraiment, par le enfin, qui va lui apporter quelque chose.
Elle se lasse aussi de toutes ces...
Elle trouve pas ce qu'elle veut.
Oui, elle se lasse de ces histoires.
Mais elle trouve une solution, je sais pas si... Enfin,
non,
ça pue du cul.
Mais il faut arrêter avec ces solutions. Pardon, tu leur fais dommage ménage.
Une solution, elle trouve quelque chose, moi, qui m'a passionnée, Alpha.
Tout à l'heure, je disais...
Oui, c'est une autre forme de domination.
Non, mais je vous le dirai auprès de Laura.
Oh oui.
Tout à l'heure, je parlais d'homme à femme et les femmes à homme, ça existe aussi, puisque c'est le cas de Mélanie Douté dans la pièce.
L'Elisabeth.
Oui, du personnage.
Pardon. Oui, j'ai dit dans la pièce.
D'Elisabeth. Les femmes à homme, ça existe. Ben, moi, ce que je vois, alors c'est peut-être faussé, hein, par mon recrutement, mais biaisé, mais je vois beaucoup plus d'hommes séducteurs. Avec des besoins sexuels importants que de femmes avec des besoins sexuels importants. C'est d'ailleurs le problème.
Parce qu'elle consulte pas.
Le thérapeute. Non, mais c'est d'ailleurs le problème pour lequel on consulte un thérapeute de couple et un sexologue très très souvent.
Mais parce que le sexe est la clé de voûte de tout ce rapport de séduction, de la vie de couple. C'est forcément, ça passe forcément par le sexe.
Ça passe par le sexe et je pense par un sexe épanoui parce que ça rend bienveillant. Mmh. Si on a une vie sexuelle qui est épanouie, on va être beaucoup plus bienveillant avec l'autre. Et seulement, avoir une vie sexuelle épanouie, ça veut dire qu'on accepte d'être dépendant de l'autre, qu'on accepte, je veux dire, qu'on peut l'être sans se sentir complètement dévalorisé.
Mais vous voulez dire qu'il n'y a pas de femmes ou d'hommes heureux sexuellement qui ne quittent pas quand même leur conjoint pour aller voir ailleurs ? Ça n'existe pas.
Si on est heureux sexuellement, franchement, moi j'en ai jamais vu. Alors, mais ils n'aiment pas me voir non plus. Hein.
Oui,
ils sont heureux sexuellement et qu'ils sont bien avec leur conjoint, je vois pas.
C'est vrai qu'à la base, ceux qui viennent vous voir, c'est qu'ils ont un souci à régler ou qu'ils sont conscients, en tout cas, d'avoir quelque chose à régler. Les autres sont peut-être pas conscients.
Enfin, si ça marche bien sexuellement, je crois pas qu'ils aient vraiment envie de quitter leur conjoint. Sauf, ce qui peut se passer, c'est le cas de ces séducteurs compulsifs. Qui peuvent exister.
Oui, c'est justement, je trouve que c'est devenu un peu un truc un peu facile aujourd'hui. Beaucoup, j'entends, non, mais le pauvre, il est sex addict. Ouais, enfin, ça est devenu une sorte de panier. On peut mettre tout, le pauvre, c'est une maladie, quoi. Donc, beaucoup d'hommes s'arrangent de cette dépendance-là sexuelle. C'est un peu, il y a eu la mode aussi des
manipulations. Je pense que ce sont les mêmes qui, quand ils étaient en couple.
Des pervers narcissiques, voilà, c'est des vagues de mode.
Il est con, en fait. Il est méchant. Non, mais il est méchant, il sait pas tenir ses mains, il sait pas se retenir. Qu'est-ce que je te dise? Enfin, il va attraper à droite, à gauche. C'est pas un sexe addict.
Mais Daniel s'est excusé aussi.
Voilà, c'est vrai, j'ai envoyé des lettres, des courriers.
Je crois pas vraiment. Enfin, je comprends ce que vous dites, mais je pense qu'il y a des vraies addictions qui sont sexuelles, enfin de séduction sexuelle, qui sont comme des séductions à la cocaïne.
Non, mais on ne dit pas le contraire, mais on dit simplement que la quantité me semble un peu disproportionnée par rapport à la réalité du diagnostic.
Je suis un sexe addict et je ne peux pas m'en empêcher, et comme ça, je peux continuer.
C'est un alibi, d'autant que je pense que quand il reste en couple, lui, par contre, il se retourne, il dort et... ne fait pas spécialement.
C'est rare, les vrais séducteurs compulsifs.
Merci beaucoup Anne-Marie Lazarsic d'être venue.
Merci.
Au Bouffe Parisien, je rappelle, Mélanie Houté et Michel Faux sont sur scène pour Douce Amère, la pièce de Jean Poiret. Aucun enchaînement avec tout ce qu'on vient de dire. Voici Shake It Baby, c'est Johnny Hooker. Shake it, baby. Shake it, baby.
time for me. Now rock. Shake that thing, baby. One time for your daddy. I love it. You're cooking with gas. Honey, you're working. You got the pots on and the gas up high. One time for me. One time for me. One time for me. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake that thing. Shake that thing. Shake that thing. Shake that thing. One time, baby. One time. One time. One time. One time. One more time. One more. And one more. And one more. One more time. 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 Just one more time.
Johnny Hooker, One More Time, Shake It Baby, avec ce genre de musique. La musique d'ailleurs, est-ce qu'elle a une place importante dans votre vie? Vous l'écoutez beaucoup? Est-ce que par exemple, pour rentrer dans le rôle, parce qu'il y a de la musique aussi oui. sur scène, je crois un peu du Frank Sinatra oui, ou du genre, oui, oui. c'est ça?
Je peux pas vous en dire plus sur la musique, okay, mais en tout cas dans ma vie, oui, ça occupe une grande place.
Est-ce que par exemple, dans votre loge, vous écoutez de la musique avant?
Ah oui, je me suis fait ma petite playlist de sa mère, ouais, ouais.
Pour être dans l'humeur d'Elisabeth?
Oui, dans l'énergie de ces 70s, dans cette liberté, dans cette féminité, ouais, j'essaye. Enfin, ça m'amuse. J'adore la musique.
Et au point de vouloir en faire
des tatous
aussi, non, un métier, de faire un disque, de chanter.
Pourquoi les tatous
ah non, 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 non.
Je sais pas, je veux faire un tatou.
Non, non, oui, juste la petite clé de sol.
Ah ouais, superbe. Dans le creux là.
Non, pas du tout. Non, c'est mon métier, c'est d'interpréter, mais pas de chanter.
Interprète.
Oui, c'est vrai, c'est un peu con, parce que ma réplique n'est pas bonne. Mais non, je ne suis pas chanteuse. J'adore chanter, mais c'est que pour moi.
C'est juste quand vous chantez.
Je crois.
D'accord, très bien. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure.
Bonjour.
Mais il est déjà là.
Mais
bonjour.
Oui,
voilà.
Je sais pas comment le dire. Tanguy, le président et le premier ministre ne cessent de monter dans les sondages. Ouh. Et ça vous étonne.
Mais oui, alors que d'habitude, un quart d'heure après avoir élu nos dirigeants, on a envie de les pendre. Et ben là, c'est le contraire, ça n'arrête pas de grimper. Macron et Philippe sont plus populaires que Gelfix en studio line chez les joueurs de l'équipe de France de foot, Nagui. On les kiffe.
Et ça sera tout à l'heure à 12h10. Tanguy Pastureau maltraite l'info. Une cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courte pour Mélanie Douté, Leïla.
Mélanie, quel autre métier auriez-vous pu exercer?
T'as pas mis une virgule au mauvais endroit, là?
Non, mais j'ai eu du mal. Vous auriez fait quoi si vous n'étiez pas comédienne, quoi?
Voilà. Je sais pas du tout.
C'était que comédienne.
Non, mais je sais pas. J'aurais bien fait des décors de théâtre ou archéologue ou enfin fourre-tout.
Daniel Morin.
Une question comme ça qui me vient.
C'est quoi votre geste beauté?
Le geste beauté du matin. C'est quoi?
Boire de l'eau.
Boire de l'eau. Ah, oui. Voilà, je note.
Tom Villa.
Vos parents, ils sont rassurés maintenant?
Non. Non.
C'est fou,
ah,
ça.
Ouais,
ah ouais, bah, ça reste des parents. Hein. Guillermo Guy.
Une actrice avec qui on vous confond?
Audrey Tautou, mais c'est souvent c'est beaucoup les chauffeurs de taxi, et donc dans le rétroviseur je dois avoir un truc de Audrey Tautou.
Ils sont en position nuit, c'est pour ça aussi, il faut qu'ils changent leur rétro. Leïla.
La personnalité que vous auriez aimé rencontrer?
Audrey Hepburn.
Bon, reste dans les Audrey alors.
Daniel Churchill.
Churchill Hepburn. C'est qui celle-là?
Autant Audrey Hepburn, oui, mais Churchill.
Je trouve ce mec fascinant. Et puis parce que j'ai regardé il y a
Les heures sombres, vous l'avez vu ou pas?
Mais non, je l'ai pas vu. Bah là, je ne vais pas au cinéma, je ne fais plus rien là. Mais j'ai regardé avant cette The Crown.
The Crown, ouais.
Et voilà, je trouve que l'interprétation de Churchill, elle est magnifique.
Daniel Morin.
Non.
Merci.
Merci. J'inspire.
Mélanie Noutet est avec nous jusqu'à.
Moi, j'ai qu'une question, Nagui.
Oui, bah, c'est ouais, le geste roté du soir.
Oui, mais quelle question?
Ouais, c'est ça. Elle est culte.
Quel talent.
C'est une question culte. Mélanie Noutet est au Bouffe Parisien et ça sera jusqu'au mois d'avril.
Oui.
C'est limité comme période d'info.
Oui, parce que Michel reprend son récital qu'il faut aller voir aussi. Oui, mais c'est bien déjà janvier-avril.
Très bien.
Vous avez le temps de venir nombreux.
On viendra du 16, à partir du 16 janvier, en tout cas au Bouffe Parisien. Mais écoutez, Michel Faux, David Comemos, Christophe Paou et Rémi Lacquitant, tout ça pour Douce Amère, la pièce de Jean Poiré. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kedoum-David.
Bonjour.
Guillaume Poubouy.
Complètement.
Tanguy Bastiaud, Daniel Morin, Tom Villa et notre invité Mélanie Doutet.
Bonjour.
On a hâte de vous découvrir sur scène au Bouffe Parisien. J'imagine que cette hâte, cette excitation, vous devez l'avoir vous aussi de enfin passer à l'acte ou aux trois actes, sans mauvais jeu de mots, avec cette pièce de Jean Poiré, parce que ça doit être aussi, comment dirais-je, excitant à préparer. Comme une surprise que l'on s'apprête à offrir, non ?
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Et puis c'est vrai que ce trac, la seule façon de le soigner, c'est d'y aller, quoi. Donc faut. On a envie de montrer notre travail, on a envie de faire entendre ce texte de Poiret. Puis ça ne sert à rien, le théâtre, c'est pour que ce soit. Pour soi, donc il faut le donner.
On l'avait entendu dans la première partie de cette émission, le jeu de séduction entre guillemets qui pouvait y avoir entre Michel Faux et vous, puisqu'il il avait dit qu'il avait clairement craqué lors d'une rencontre. Cette rencontre a été montée, organisée par Hélène Médic, vous avez parlé d'elle tout à l'heure, c'est elle qui a été le moteur de cette pièce.
Oui, elle est vraiment à la base, c'est elle qui a les droits, donc ils sont tenus par Nicolas Poiret, le fils de Jean. Qu'il a eu avec Caroline Cellier, avec qui d'ailleurs j'avais fait ma première pièce de théâtre, L'éventail de Lady Windermere. Donc
c'est bien ces rendez-vous retrouvés, ouais, c'est bien.
Oui, oui. Ouais. Et donc c'est elle qui m'a fait lire la pièce. Et puis on s'est rencontrés avec Michel Faux.
Vous disiez qu'elle est elle-même comédienne aussi.
Elle est elle-même comédienne, ouais.
Et réalisatrice aussi. Elle prépare là un documentaire sur
l'écologie aujourd'hui, exactement.
La permaculture.
Et puis qui m'a projeté dans ce rôle-là. Donc c'était très flatteur. Et puis c'est vrai que dès qu'on lit la pièce, quoi, il y a un coup de foudre immédiat. J'ai eu un coup de foudre immédiat. Je pense que Michel a eu la même chose aussi.
Mais alors pourquoi cette pièce n'a pas été plus souvent jouée, tellement elle est intelligente et tellement elle a eu de succès en plus lorsqu'il l'avait créée ?
Je pourrais pas trop vous répondre.
Non, mais c'est justement un problème de droit, un problème de. Il fallait trouver les bonnes personnes pour au bon moment.
Peut-être, c'est une question de rencontre aussi, votre personne. Mmh. Et puis parce que peut-être que Nicolas Poiret n'était peut-être pas toujours content des propositions qu'on lui faisait autour de la pièce.
Et puis Michel Faux est quand même devenu un peu le spécialiste déjà. Ces mises en scène font événement. On attend les mises en scène de Michel Faux. C'est vrai, c'est un vrai rendez-vous dans le théâtre aujourd'hui. Et puis il a aussi cette. Oui, j'imagine que c'est d'autant plus flippant pour vous, Mélanie.
Une pression supplémentaire.
Pardon, je voulais pas le dire comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très
vous
attendu.
Êtes en tournant, vraiment.
On sait qu'on n'est pas déçu avec Michel Faux, qu'il a ce côté très inventif, et puis il a cette capacité aussi à aller chercher des textes. C'est aussi sa force, Michel Faux. Ouais. Quand on avait parlé de Roussin, on avait parlé de d'autres auteurs, il sait à chaque fois ressusciter des auteurs qui ont été
Barry et Grédy, qui ont été
un peu moins lus, moins joués, et lui, il va y apporter sa patte. Et je crois que c'est peut-être une des explications du pourquoi Douce Amère arrive sur scène en 2018.
Pour ce qu'il avait fait aussi. Sur le André Roussin aussi, qui est une pièce merveilleuse, génial. Ou même Monterland, dont on connaît mal le théâtre, parce qu'on a cette image de ce truc très poussiéreux. Mais il est tellement curieux, il voit tout, il lit tout, il est passionné par le théâtre, quoi, et par le cinoche aussi. Il a une culture incroyable.
On va reparler du fond de cette pièce et de l'histoire de ce couple qui est incarné par Mélanie Doutet et Michel Faux dans quelques instants. La pièce s'appelle Douce Amère, signée Jean Poiret, c'est au Bouffe Parisien. On en parle juste après que Tanguy Pastureau ait maltraité l'information et qu'il ait avalé son dos. Tanguy, vous êtes très aimé, vous le savez, comme le président Macron, comme Édouard Philippe sont très aimés.
Oui, d'habitude, 4 heures après avoir élu le président, on fait une simulation d'impôt et on dit à sa moitié, tu vois, j'en étais sûr, il a rien fait ce trop duc. On paye toujours la même chose, viens Maloute, prends ton zippo, on va brûler l'Elysée. Sarkozy, avant même de saluer la foule, était à moins 12 dans les sondages. Le coup du Fouquet, une sole et un café gourmand, ça lui a pourri son quinquennat. Il serait allé chez Quick, c'était notre héros. Hollande, le soir de son élection, lui reprochait d'avoir fait Tulle Paris en avion, parce qu'il avait tellement surjoué le mec normal qu'on pensait qu'il allait venir en stop et arriver à Paname en boitant, abusé par un routier un peu trop de gauche. 6 mois après avoir quêlé leur jambon dans le fauteuil du chef, les présidents étaient haïs. Les humoristes, ces losers qui font leur beurre en se moquant des autres, les étriaient. Parce que nous, les Français, depuis qu'on a dit à Louis XVI, « Sire, le prenez pas pour vous, mais on va faire de votre corps deux entités distinctes. Comme quand chez le dermato, on vous retire une boule de peau, mais avec votre tête à la place de la boule de peau. » Et ben depuis, on n'est jamais content de nos dirigeants. Même Giscard, qui jouait de l'accordéon, c'était le Claudio Capéo de l'époque. Oh, on l'a jeté. Mais là, miracle, Macron ne s'effondre pas. Mieux, il monte dans les sondages. Il est aussi populaire que la Biafine au Cap d'Agde. Plus 9% en 2 mois. Vous demandez aux gens ce qu'ils aiment, ils répondent 1. Les RTT, 2. La raclette, 3. Macron. On lui passe tout. Il a fait son anniversaire à Chambord. On dit, alors Chambord, ça va, c'est intimiste. Sarko, on a failli le lyncher juste parce qu'il avait des Ray-Ban, les lunettes qu'ont tous les pouilleux du rock pour faire genre mes yeux sont le reflet de ma vie dissolue bébé. Excuse-moi si je les monte pas. Macron, c'est l'idole. Il y a encore un an, en meeting, il couinait comme une vieille porte. Et là, il nous dit, les mecs, on va tellement la transformer la France que bientôt Quimperlé, ce sera dans le Bas-Rhin. Et nous, c'est comme au Club Med. Quand il y a un type bien gaulé qui nous donne des instructions, on le suit. Sauf que là, c'est pas un cours d'aquagym. Mais hein, il a un tel leadership, notre gosse, que demain, s'il met la chanson de Flashdance, on sera tous en short, en train de tortiller du huc pour lui. Il emballe le pays, le petit Quick. 57% des républicains en ont une bonne opinion. Qu'est-ce qu'il peut faire, Wauquiez ? S'il le critique, il a la moitié de son parti qui lui dit « Lolo, tu sais quoi ? Macron, c'est Fillon sans les poils. Il applique notre programme. Donc tu remets ta veste de chasseur de poules d'eau et tu te casses sur la péniche Thalassa. »
D'autant que les gens de gauche, d'après les sondages, sont également séduits.
Oui, 53% des électeurs du PS ont une bonne opinion de Macron. Les électeurs du PS, ils sont un certain Jean-Paul qui a répondu « Ouais, je l'aime bien, mais parfois non. » Donc ils se sont dit « Ok, ça fait 53%. » Et même chez les insoumis de Mélenchon, ils sont 41% à apprécier Macron, selon un sondage Paris Match Sud Radio. Attention, hein, il y a un autre sondage Valeurs Actuelles Radio Courtoisie où Macron est seulement à 0,1% de satisfaction. 9 sondés sur 10 évoquent quand même la possibilité de l'euthanasie. Édouard Philippe, le grand gus qui fait penser à Fantasio, s'envole aussi. Il est à 59% de bonnes opinions et il monte. Vous lâchez un ballon Winnie l'ourson gonflé à l'hélium à côté du parcours d'Édouard Philippe, c'est une enclume sur laquelle se serait assis Olivier Mine après ingestion de créatine. Même la polémique sur son avion pour rentrée du Japon, que des types lui avaient facturé 350 000 euros plus 400 000 pour les ailes. Ça n'a pas empêché son ascension. Hollande, s'y bouffait 2 chouquettes au lieu d'une en conseil de ministre, on disait, regardez, il ruine le pays, c'est pour saut. Les mecs peuvent vider le livret A de la France en 4 jours, on se dira, c'est pas grave, ils sont jeunes, ils ont dû avoir envie de faire une sortie au métropolis de Rungis avec 16 000 amis. Hein, du moment que le matin, ils sont dépités et sont capables de vendre à la Chine 200 Airbus au quart d'heure, on s'en tape. Alors des sociologues se sont même penché sur la popularité de Macron et de Philippe, et pour eux, c'est le syndrome du « there is no alternative », il n'y a pas de plan B, selon les mots de Margaret Thatcher, la dame de fer au brushing en fonte, dans les années 80. En gros, on sait qu'on doit faire les réformes, parce que le pays devenait aussi figé que le visage de Nicole Kidman. Et il n'y a pas d'opposition. Le PS, c'est mort, LR, c'est en sommeil, les insoumis, ils sont 16 dans la rue à chaque manif, les CRS viennent même plus, pendant ce temps-là, ils vont voir Star Wars. Et le FN, Le Pen veut changer le nom tellement ça marche pas. Donc c'est comme en amour, on prend ce qu'il y a. Si un soir en soirée zouk qu'une personne qui a bu trop de rhum arrangé, on le voit au fait que quand elle sourit, elle vomit, nous dit « Chérie, je veux toi », miracle, on dit « Ok », après s'être tapé 80 râteaux. Bah là, c'est pareil, Macron, il est seul à nous offrir sa fleur, alors on la prend et on se dit « Allez, j'arrête de me protéger, je retire ma carapace, lâcher prise, je me donne à lui. »
Oh oui, tant pis. Merci.
La bande originale. Adieu. Adieu. Sur France Inter.
Tanguy Pastureau, tous les jours à midi 10 dans la bande originale sur Inter. Et aujourd'hui, Mélanie Douté, notre invitée jusqu'à midi et demi pour parler de cette pièce au Bouffe Parisien avec Michel Faux, Christophe Pahou, David Kamenos et Rémi L'Aquitant. D'où sa mère, cette pièce de Jean Poiret, qui raconte donc l'histoire d'un couple. On va refaire le pitch pour ceux qui nous rejoignent, et ils sont nombreux. Le couple qui va mal, même un couple malade, c'est l'expression est employée dans la pièce. Le couple, en l'occurrence, est interprété par Michel Faux et par vous, Mélanie Douté, et va mal au point où, de dîner en dîner ou de rencontre en rencontre, le mari va faire une sorte de casting ou de sélection de celui qui pourrait être l'amant, mais l'amant officiel, approuvé.
Ou le prochain.
Est-ce qu'il a vraiment, dès le début, le sentiment qu'il va être quitté ? Ouais, c'est ça.
Ah oui, oui. En tout cas, il veut donner...
Il parle d'amant, il parle pas de...
Mais il veut donner... Non, non, il veut donner à Elisabeth la pensée libre de fait qu'ils vont se séparer.
Donc, d'accord. Elle, oui, moi, prépare le terrain. Moi, non plus, je me disais...
Moi, j'avais vu... Ah, ouais,
pour continuer leur relation, qui en effet bat un peu de l'aile, pourquoi pas lui donner un objet de distraction, elle pourrait s'amouracher d'un tel. En plus, avec
une bouffée d'air frais.
Voilà, quoi, et puis avec ma validation, ça pourrait permettre à notre couple de perdurer ainsi.
Et je garderai le contrôle et de l'amant et de mon épouse.
Oui, mais je crois qu'il se rend très vite compte qu'il en est incapable et qu'elle en est incapable aussi.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, ça va de rebondissement en rebondissement. Est-ce que c'est, pour vous, une pièce sur le couple ou une pièce sur la femme?
C'est difficile de dissocier les deux, parce qu'un couple c'est fait de...
Pas forcément.
Non, si je trouve, c'est enfin du couple et de la femme.
et là, dans son regard, je lis voilà. Tu m'as fatigué.
Non,
ça se passait bien jusque là. La promo était parfaite. Mais question d'amour, quoi. Pardon. Voilà.
C'est sur le couple et donc évidemment de mon point de vue de la femme.
Je crois que la dernière fois que j'ai vu le regard de Mélanie Douté avec le même regard là, c'est quand je suis arrivé pour un dîner chez elle et j'étais pas venu avec un dessert. Et là, c'était à peu près le même. Non, je sais que
c'est
pas vrai.
C'est quoi votre position sur le conflit israélo-palestinien,
Voici le rêve de Daniel Morel.
Yes. Ah, en ce moment, à Las Vegas, le king, les casinos, la fête, les filles, l'alcool, la drogue, le sexe en groupe, yes. Eh bien, non, pas du tout. En ce moment, à Las Vegas, c'est le CES 2018, le Consumer Electronic Show, le salon de l'électronique, la foire aux geeks qui kiffent les objets connectés. Et plus ça va, moins on en fait. Tout est connecté, des ordinateurs centraux qui gèrent nos vies en direct et agissent seuls pour régler les problèmes. Bref, la robotisation à l'extrême et la grande question qui se pose en filigrane, l'intelligence artificielle ne risque-t-elle pas de prendre le dessus sur la nôtre ? Moi, ce genre d'événement, ça me colle le frisson. Et moi, quand je frissonne, ça me donne sommeil. Et quand j'ai sommeil, je dors. Et quand je dors, je rêve. Dans mon rêve, je suis chez moi, tranquille, en train de jouer à chat avec mon chien. Quand d'un seul coup, une voix m'interrompt. Attention, le taux de présence de poils de chien dans la pièce est trop élevé. Risque d'allergie détecté. Je pulvérise le désodorisant et la ventoline. Merde, quoi je me mêle? J'aime bien quand ça sent le clébard chez moi. Alors pour me détendre, je vais dans la cuisine me faire un petit café. J'installe la petite capsule. J'appuie pour avoir un café serré. Rien ne se passe. Puis deux secondes plus tard, la voix. D'après mes capteurs, vous êtes trop énervé pour prendre un café. Prenez plutôt une infusion. Putain, mais je t'emmerde, toi et tes tisanes. Je suis énervé, bordel, je veux juste un café. Et je jette la machine par la fenêtre qui, 6 étages plus bas, fermait bien sa gueule. Lassé par tout ça et cette technologie aussi environnante qu'interventionniste, ça plus mon chien qui faisait la gueule parce que la machine stigmatisait sa chute de poils, je décide de prendre le large et de revenir aux fondamentaux de la vie sans technologie. Je me retrouve en pleine forêt. En pleine forêt, entouré par la nature. Le vent frais sur mon crâne lisse. Le doux son du bruissement des feuilles venait caresser mes tympans irrités. Une légère ondée s'égare dans le ciel. Les grosses feuilles. Une légère ondée s'égare dans le ciel et vient s'écouler sur ma tête. Petit caprice météorologique humide et charmant à la fois. Oh, tiens, c'est une drôle d'odeur. Ah non, c'est pas la pluie, c'est un écureuil qui me pisse dessus. Saleté de bestiole. Ah, si j'avais mon fusil, je te l'aurais pulvérisé, cette saloperie des bois. Bon, en même temps, c'est pas grave. Retrouvons le kiff. Oh, la jolie rivière. Rivière?
Comme le beurre.
Le beurre.
Non, ça, c'est l'écureuil.
c'est parfait, ça tombe bien, j'ai un petit creux, je vais pêcher du poisson, le faire griller, ça va être délicieux. Je vais pêcher style grizzly à la main. 3 heures plus tard. Non mais c'est pas possible, c'est la seule rivière du monde où il n'y a pas de poisson. Bon tant pis, je vais bouffer de l'herbe. C'est pas mauvais.
Non.
En même temps, ça n'a pas de goût. C'est vraiment une vie de merde, hein, les herbivores. Quand je pense à Nagui qui est végétarien, le pauvre. Bon, ça commence à cailler, je vais me faire un petit feu. Allez, 2 cailloux, je frotte, hop hop hop, Fiat Lux. 5 heures plus tard. Putain, mais comment ils faisaient les Cro-Magnons, mon sang? Je suis quand même pas plus con qu'un Cro-Magnon. Ah bah, faut croire que si. C'est quand même vachement beau, la nature, hein. On se sent libre sans technologie. Tiens, j'ai appelé ma femme pour qu'elle me rejoigne. On va profiter de ce moment à deux, de ce spectacle. Alors, c'est quoi son nom déjà? Ah oui, j'ai noté ça, femme. Oh, c'est pas vrai, il n'y a pas de réseau. C'est quoi cette forêt sans réseau ni wifi? Bon, et ça suffit, ras le bol. Allez, à la maison. La nature, ça va 5 minutes, mais sans connexion, c'est pas possible. En plus, je suis couvert de boue, j'ai froid, j'en ai ras le bol. Alors, j'arrive devant chez moi, prêt à retrouver la civilisation moderne et sa technologie de pointe, car oui, chez moi, tout est connecté. Je mets la clé dans la serrure et là, désolé, vous êtes trop sale, vous allez salir le tapis. Reprenez, avoir après une douche. Monde de merde. À demain.
Merci d'être
avec Nagui.
Ça va, Mélanie Douté?
Mais ça va très bien.
Je suis ravi de vous accueillir. Écoutez, nous sommes dans la
bande. Ravi d'être
Vous connaissiez ses talents de bruiteur ou pas?
Mais non, je découvre ça.
Et puis il est tellement bénévole. Voilà, on lui a rien demandé. Ouais. Il y va comme
ça. Oh là là, il fait ça. Ouais,
avec un sourire enfantin. Il est tellement heureux de le faire.
On
il se met à agiter ses petites feuilles.
Vous l'avez vu? Caché, le bruit des feuilles, c'était Nagui qui l'a fait.
C'était beau. Ouais.
Mais quel talent.
Mais tellement heureux, comme un CP qui lève la main pour la première fois. Il y avait quelque chose de tellement mignon.
Mais bruiteur, metteur en onde à la radio. Mais c'est mon rêve.
Ah bon?
C'est mon rêve, j'adore ce métier-là. J'adore. Il y a des bruiteurs professionnels, mais ici, Radio France, il y en a.
Ça fait plus café, ça fait plus café.
Non, ça fait pas écureuil, ça, ça fait pas écureuil. Mélanie Douté.
Sanglier écureuil, bravo. Hein.
Vous êtes donc dans Douce Amère, cette pièce au bouffe parisien. Est-ce que ce qu'il y a de plus compliqué pour vous, là, aujourd'hui, à presque quelques 48 heures, non, 4 jours oui. de la première, c'est de connaître le texte par cœur, c'est les desiderata et rêves de Michel Faux dans la mise en scène, c'est de penser à tout en termes de déplacement, de mouvement parce
C'est la cohérence, c'est-à-dire que c'est d'assimiler le texte en accord avec le déplacement, avec l'écoute de ses partenaires.
Il y a aussi bien des scènes de monologue que des scènes de dialogue extrêmement rapides et où il faut être au couteau.
Oui, donc c'est ça, c'est trouver cet équilibre, l'équilibre juste et honnête et sincère et puis l'écoute est quelque chose de très importante donc c'est que tout soit cohérent et que ça fasse un beau personnage.
Quand j'ai lu le texte, il y a quelques scènes où on sent que vous êtes extrêmement manipulé par certains de vos partenaires. C'est même clairement et écrit en toutes lettres.
Il lui
tripote les seins, il lui touche les fesses, il la caresse.
Tu les as bien retenus les didascalies, hein.
Mais non, j'étais surpris parce que c'est autant. T'as raison, les didascalies sont très précises dans l'idée de Jean Poiré. Ça fait partie.
Parce qu'à un moment, un des personnages pousse à l'extrême ce jeu de la manipulation et de la domination, et donc il va tomber il va imiter un papy complètement gâteux, et finalement ça va être tellement poussé à l'extrême qu'elle va finir par trouver ça absolument
répugnant,
immonde, et donc c'est casser ce jeu là mais on peut imaginer qu'à un moment donné, peut-être dans leur couple, ça a été un jeu qui a pu les amuser
et puis vous passez par tous les états, c'est-à-dire que de la joie à la tristesse,
de l'hystérie à la passion,
de celle qui manipule à celle qui est manipulée, c'est ça. Vous êtes dans tous les états, ça doit être agréable,
génial. C'est très agréable.
Un rôle riche, plein.
Plein.
À propos de rôle, vous serez prochainement à l'affiche de Paradise Beach de Xavier Duringer, c'est ça, avec Samy Bajila.
Samy Bajila, Cool Chef.
Ça parle de quoi?
C'est l'histoire d'un groupe de mecs qui ont fait un casse il y a 20 ans et il y en a un qui est tombé. Pour ce casse, et les autres sont partis avec le butin en Thaïlande. Et donc il sort de prison et il va retrouver ses copains. Dis-moi comme petit du.
Et vous êtes
La femme de celui qui revient qui fait
Et vous allez vous plonger également dans le Grand Bain. Enfin, j'imagine que vous avez déjà tourné le Grand Bain.
Oui, on l'a déjà tourné. Oh là, je suis vraiment un petit clin d'œil dedans, mais c'est le prochain film de Gilles Lellouche. avec un casting de malade, avec...
On en a parlé avec lui à ce micro, oui, Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Jean-Hugues Anglade...
Ouais, c'est et j'ai vu Philippe le film, c'est un, ah, ça y est. Vraiment un super beau film.
Et
vraiment,
qui sortira,
vraiment,
vous, vous avez la, la période
non, non, pas du tout, je ne l'ai pas, mais c'est un très beau film.
Super.
Très fier de lui.
Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour Sophie Marceau. Ouais, on a bien tenté de faire dire à Mélanie Doutet toute l'admiration qu'elle avait pour vous.
J'ai pas vraiment enchaîné.
Tout essayé, mais rien. Et encore, Sophie, si vous saviez les horreurs qu'elle a balancées à la pause, c'est dégueulasse. Désolé pour tous les
auditeurs. Si vous avez le droit de réponse, n'hésitez pas.
Hein. Je m'insurge, secrètement, mais je m'insurge, c'est pas vrai.
Vas-y, vas-y, c'est moins sucré.
Je suis désolé pour les habitants de Prague. Mélanie Doutet ne se souvient pas du tout si elle est venue chez vous, c'est l'habitude dans votre ville ou pas?
Ah bah ça, bon
le charisme, ça s'invente pas. Désolé pour les femmes de bon Tom Villa. Ouais. Pour les fans de Tom Villa qui a essayé et qui les a désarçonnés par sa poésie et sa finesse ce matin. Et pour tout vous dire, moi aussi j'étais un peu surpris, mais il a quand même dit ça pue du cul. Et je vous parie un grand paquet de pognon, il va le redire demain.
Non, il est pas cap, on le met au défi. On le met au défi. Mélanie, juste une simple question avant que nous quittions. Est-ce que vous avez des envies, des projets dont on n'a pas parlé?
Pour le déjeuner tout à l'heure.
Non, pour votre vie professionnelle.
Un dessert peut-être?
Ah oui, j'ai plein d'envies, plein de choses que j'ai pas faites. Bah, je ne sais pas.
Le travailler par exemple avec un réalisateur ou un metteur en scène en particulier?
Oh oui, mais enfin, un réalisateur tout seul, il faut vraiment qu'il y ait une rencontre avec un personnage, avec quelque chose de nouveau. On me pose souvent cette question, avec qui vous rêveriez de travailler? Mais si jamais c'est pour faire un truc que j'ai déjà fait avec, je veux dire, avec les frères Cohen, par exemple, j'adorerais bosser avec les Cohen, mais...
Tant qu'à faire quelque chose de nouveau.
Une comédie musicale avec les frères Dardenne. Non
voilà, voilà.
Quelque chose de nouveau, ça.
Voilà. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, mais il y a tellement de choses à faire encore. Et puis, je vais commencer à rentrer dans des âges où je peux faire des mamans. Enfin, où j'ai déjà l'âge, mais on m'a vu souvent plus dans des comédies romantiques. Donc, je vais commencer à aborder des rôles différents. Donc,
Et d'écrire et de vous mettre vous-même.
Oh, j'ai essayé, mais alors, ça demande beaucoup de travail. Hein, mais ça...
Le rire après était parfait.
Ah, c'est le rire Mélanie.
Non, mais je suis pas quelqu'un de paresseux. Mais c'est d'être seul face à soi. Ça demande une rigueur. Je trouve ça difficile.
Mais vous jugez déjà votre travail ou l'avez donné à lire à des producteurs, à des réalisateurs?
Pour l'instant, je me suis auto-censurée, ça me suffit. Mais un jour peut-être, bien sûr.
Et sur quel sujet, pardon, vous aimeriez écrire?
Sur la vie, sur le couple, sur les femmes, comme Jean Poiret.
En tout cas, l'écriture de Jean Poiret est absolument
La langue est très très belle.
Ah oui, moi j'ai redécouvert parce qu'on a l'impression d'avoir un texte presque classique et moderne à la fois.
Ouais, d'ailleurs, je me réjouis de l'avoir lu avant de venir vous voir parce qu'il y a une sorte d'attente aussi du coup dans la poésie et la musique du texte.
Non, mais les phrases sont brillantissimes et puis vraiment ce qu'on disait au début.
Et pas facile, et peut-être pas facile non plus à porter et à jouer.
C'est-à-dire qu'il faut pas les livrer comme quelque chose d'anodin. Parce que ce sont des vraies réflexions profondes, donc il faut garder cette nécessité qu'a le personnage. C'est un aveu profond et c'est pas facile de dire des mots pareils.
C'est pas facile, c'est pas difficile d'appréhender justement l'exigence d'une écriture pareille quand on écrit de façon médiocre.
Ah ben je pense on va se quitter là-dessus. On vous souhaite une bonne journée, ma petite dame.
Merci, on vous attend en tout cas.
J'ai son portable si vous voulez l'insulter dans la nuit.
Enfin son téléx.
En tout cas, on est ravis de vous avoir accueilli, Mélanie. On viendra vous applaudir au Bouffe Parisien. Merci mille fois. Ça s'appelle Douce Amère. Demain, c'est Franck Gastambide qui sera notre invité.
Bisous,
ce sont les Carniers. Bisous, Chacha. À qui vous faites ça?
J'avais promis que je passe un message personnel. J'ai essayé que ce soit le plus discret possible.
Ah, bah c'était super discret.
Bisous, Chacha.
Bisous, Chacha. On s'est dit au mieux, c'est le surnom de Gaston Bide. Sinon.
Non. Bisous, Chacha.
Oui, mais c'est une amie qui vous écoute tout le temps.
Bonjour, Chacha. Salut, Chacha.
On embrasse Chacha.
On l'embrasse, désolé.
Et on recevra Chacha lundi.
En spécialiste.
Elle a la bienvenue.
Philippe Bertrand, elle est carnet de campagne. Bonjour, Philippe.
Oui, j'ai un Chacha dans la gorge.
On a tous un Chacha en tête.
Nagui, trop fort.
Qu'est-ce qu'on a
refait? Non, les excuses à 12h26, on est allé chercher Bruno Duvic, on l'a sorti de son coffre-fort. Il est arrivé en râlant parce qu'il y a une panne d'ordinateur.
Mais non, mais on est à l'heure.
Mais tu es parfait, monsieur. Je ne râle jamais.
Tu es parfait. Longue vie donc à Douce Amère, pourvu que Douce Amère perdure.
Oh,
merci.
Joli. Oh, joli. Voilà. Bonne émission.
Merci les amis.
Au revoir.